tout de suite notre émission mensuelle pour la dignité sur les droits humains, donc avec Régis Coulange. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous. Voilà, nous faisons donc notre émission de rentrée, bien que l'activité d'Amnesty a continué pendant les vacances. Il y a toujours du travail. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de l'usage des armes dites à létalité réduite. Et puis on parlera des Afghanes. On reviendra sur le naufrage du Pylos en Méditerranée. Et puis on parlera du Soudan, hein, on n'en parle pas beaucoup alors qu'il se passe des événements dramatiques. Et puis ensuite on finira par les activités du groupe Dinois. Alors on ne sera pas présent au forum des associations, on n'était pas disponible. Mais par contre, bien sûr, tous ceux qui voudraient nous rejoindre peuvent le faire volontiers. Hein, on accepte tout le monde, des jeunes aux moins jeunes, sans discrimination aucune, bien sûr. Et notre prochaine réunion du groupe se tiendra le mardi 26 septembre à 17h chez Madame Blanc, qui habite au 83 avenue de Verdun. C'est à côté de l'étal des Trois-Vallées. C'est la Villa Blanche qui est derrière le grillage du parking de l'étal des Trois-Vallées. Donc voilà, on est ouvert à tous et si vous voulez nous rejoindre, ça serait volontiers parce que on a besoin de force et d'être nombreux. Alors Amnesty International, je vous rappelle rapidement, c'est une organisation donc non gouvernementale qui compte environ 10 millions de membres partout dans le monde. Et notre vision, c'est celle d'un monde où chaque personne peut se prévaloir de tous les droits qui sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et les autres instruments internationaux de défense des droits humains. Pour concrétiser cette vision, Amnesty International se donne pour mission de mener des recherches et des actions visant à prévenir et faire cesser les atteintes graves à l'ensemble de ces droits. Voilà. Donc, nous avons défini des priorités en matière de droits humains et notamment deux grands thèmes sur la liberté d'expression et l'espace civique et sur l'égalité et la non-discrimination. Ce sont deux grandes priorités. Et bien sûr, nous travaillons toujours sur nos thèmes qui nous sont chers, hein, notamment l'abolition de la peine de mort, l'accès à la justice et au recours, la prévention des violations des droits humains au sein du système judiciaire pénal, la lutte contre les discriminations à l'encontre de certains groupes, la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, et la protection des populations dans le contexte du commerce mondial des armes. Voilà, sans oublier bien sûr le volet éducation aux droits humains, qui est très important, est une priorité pour nous et pour le groupe d'Amnesty International, puisque nous intervenons régulièrement dans les collèges et les lycées et les écoles aussi, et nous essayons de créer ce qu'on appelle des antennes jeunes. Alors, il y en a une au Pierre-Gilles de Gênes, on espère en créer une au lycée d'Avinel et peut-être ailleurs aussi. Voilà. Alors pour commencer, on va parler de l'usage des armes à létalité réduite en manifestation. Alors ça fait partie d'une grande campagne qu'on a lancée sur le droit de manifester. Et vous avez peut-être vu des affiches avec des slogans assez forts qu'on a édités. Alors par exemple, je vous cite les slogans. Aujourd'hui, tout coûte un bras, sauf manifester, qui coûte aussi un œil. Un autre slogan, perdre son emploi, manifester, perdre trois doigts. Le cortège partira à 14h et deviendra funèbre à 16h. On dit arme à létalité réduite, parce que arme qui tue parfois, ça sonne moins bien. Venir manifester pour 100% d'égalité, repartir avec 50% d'audition en moins. Et puis le dernier, c'est l'itinéraire de République aux Invalides. Et ça dit tout, voilà. Donc ces affiches, c'est pour alerter, dénoncer et faire agir. C'est l'objectif de notre campagne, qui met en lumière la dangerosité de ces armes et les conséquences dramatiques qu'elles peuvent avoir sur les personnes qui manifestent. Partout dans le monde, des milliers de personnes, manifestants ou simples passants, ont été mutilés et des dizaines d'autres tués suite à l'utilisation abusive d'armes à létalité réduite en manifestation. En France, par exemple, des armes dites à létalité réduite, comme le LBD 40, les gaz lacrymogènes ou les grenades de désencerclement, sont souvent utilisées de façon abusive et non conformes aux règles d'usage des armes par les forces de l'ordre définies par le droit international. Dans de très nombreux pays, comme le Liban, par exemple, la Colombie ou le Chili, ces armes sont utilisées comme outil de répression contre les personnes qui manifestent. Nous en avons rencontré qui ont témoigné. L'arme à létalité réduite que vous voyez sur les affiches, c'est un lanceur de balles de défense, LBD, qui est souvent employé par les forces de l'ordre dans les manifestations. C'est suite à un tir d'une arme de ce type lors d'une manifestation à Bogota en 2021 que Lady Cadena, une étudiante colombienne de 22 ans, a perdu son œil. Elle a été touchée en plein visage par une balle en caoutchouc tirée à bout portant par un policier anti-émeute. Et elle nous a dit « Ils essaient de vous infliger des blessures visibles, comme la perte d'un œil, pour effrayer les gens et qu'ils ne sortent plus manifester. » En France, nous demandons la suspension de l'usage du LBD 40 dans les opérations de maintien de l'ordre. Le 2 décembre 2018, à Marseille, Zineb Redouane est morte après avoir été touchée en plein visage par une grenade lacrymogène tirée par un CRS. Zineb Redouane ne participait pas à la manifestation. Elle était chez elle, au 4e étage de son immeuble. Elle s'était approchée de la fenêtre pour la fermer car les gaz lacrymogènes s'infiltraient. Elle avait 80 ans. Elle a dit au téléphone, parce qu'elle était en train de téléphoner à sa fille, juste après l'impact, elle lui a dit « Le policier m'a visé, je l'ai vu ». La reconstitution en 3D réalisée montre que le tir était dirigé vers la façade de l'immeuble de Zineb et non en direction des manifestants, ce qui est strictement interdit. L'État continue pourtant à nier la responsabilité des forces de l'ordre dans cette affaire. Près de 5 ans après, la famille de Zineb Redouane attend toujours que justice soit faite. Les matraques font aussi partie des armes à létalité réduite les plus couramment utilisées par la police et les forces de sécurité à travers le monde. Comme ces équipements sont largement utilisés, ce sont aussi les armes les plus souvent utilisées de manière abusive, en particulier dans le contexte de la répression des manifestations. Lors de la répression du soulèvement populaire déclenché par la mort de Mahsa Amini en Iran, les forces de l'ordre ont utilisé ces armes contre tous les manifestants, y compris des enfants. Sarina Saidi, 15 ans, issue de la minorité kurde d'Iran, est morte après avoir été frappée à la tête à coups de matraque par les forces de sécurité iraniennes lors d'une manifestation en octobre 2022. Après avoir participé à la manifestation, elle est rentrée chez elle ce soir-là et s'est endormie. Le lendemain, sa famille l'a retrouvée sans vie dans son lit. Alors que les médecins affirmaient qu'elle était morte d'une hémorragie cérébrale, les forces de sécurité présentes à l'hôpital ont sommé la famille de ne pas parler aux médias et d'attribuer sa mort à un suicide. Parmi les autres armes à létalité réduite, régulièrement utilisées par les forces de l'ordre pour réprimer des manifestations même pacifiques, on trouve également les armes chargées avec des balles de défense. Ces armes peuvent provoquer des blessures graves et des décès. Natalia Lubnevskaya, une journaliste biélorusse de 27 ans, l'a appris à ses dépens. Alors qu'elle couvrait les manifestations qui ont suivi les élections contestées de 2020, elle a été blessée à la jambe par un tir de balle en caoutchouc lancé par la police. « Je vais demander justice », a-t-elle dit, « car je n'ai pas le choix. Je comprends que de nombreuses personnes blessées n'aient pas déposé de dossier, juste pour pouvoir oublier tout aussi vite que possible. » Alors nous demandons l'adoption d'un traité mondial qui réglemente la production et le commerce des armes à létalité réduite. Un traité qui interdise la production des armes trop dangereuses pour être utilisées en maintien de l'ordre et qui encadre le commerce des équipements de maintien de l'ordre afin qu'ils ne retrouvent pas aux mains de forces de police susceptibles de commettre des abus. Parce que nous sommes tous et toutes concernés par le droit de manifester et que personne ne devrait s'exposer à cette répression violente. Parce qu'il pourrait s'agir de nous, de vous, de nos amis, de notre famille. Voilà, donc vous trouverez sur le site d'amnesty.fr une pétition qui s'appelle « Pour un contrôle des armes à létalité réduite en manifestation ». Voilà, donc je vous invite à aller la signer donc sur le site amnesty.fr. On va maintenant écouter une chanson de « Alléluia » de Leonard Cohen qui est chantée par Jane Birkin et Eddie De Preto. Alors, Jane Pinkin, qui est décédée récemment, était une grande amie proche d'Amnesty International. Et ça, notamment par l'exemple que lui a donné son père, puisque, en effet, son père, en Angleterre, a été l'un des premiers membres d'Amnesty International, qui est né, je vous le rappelle, dans ce pays. Donc, il a été un membre actif, et Jane a vu cet exemple régulièrement. Elle a donc assisté à des manifestations, à des protestations pour exiger le respect des droits humains. Elle a aussi participé à nos actions en France. Et je me souviens notamment d'un film qu'elle avait fait sur... parce qu'on avait demandé à des artistes d'interpeller par des films la population sur des violations des droits humains. Voilà, donc je l'ai choisi avec... elle chante avec Eddie De Preto, qui est un jeune artiste qui a une très belle voix. On l'écoute.
Now I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? The minor falls, the major lifts, the baffled king composing. Hallelujah. Tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, maybe there's a God above, but for me, what I've only learned from love is how to shoot somebody who outdrew you.
And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's in the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, people, I've been here before. I know this room and I walk this floor. You see, I used to live alone before I knew ya.
And I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, not some victory march. No, it's a cold and it's a broken hallelujah.
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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah.
On va maintenant parler de la guerre contre les femmes que se livrent les talibans en Afghanistan. En effet, depuis le 27 août 2021, date de la fin du pont aérien entre Kaboul et la France, les libertés se sont drastiquement réduites et le pays vit désormais sous une chape de plomb, dans une illusion sécuritaire et une répression féroce à l'encontre de tous ceux qui contestent le régime en place. Depuis, surtout, le nouveau régime mène une guerre sans merci contre ce qui semble représenter le danger le plus redoutable à ses yeux, un ennemi omniprésent en Afghanistan, mais vulnérable, sans armes et en grande partie abandonné par la communauté internationale, la femme afghane. Ce à quoi nous assistons, en effet, est une véritable campagne de persécution organisée, généralisée et systématique, fondée sur le genre. Un des pires systèmes de domination mis en place dans le monde au niveau étatique, pour contrôler et effacer l'existence des femmes dans l'espace public. Cette guerre contre les femmes, comme nous l'avons qualifiée dans notre rapport de mars 2023, pourrait ainsi constituer, selon notre analyse, un crime contre l'humanité dont les auteurs, nous l'espérons, devront répondre un jour devant les juridictions nationales ou internationales. La faillite de l'État afghan, notamment dans l'arrière-pays où ses missions régaliennes, la santé, l'éducation, la sécurité, n'étaient plus assurées, et sans doute à l'origine du retour des talibans au pouvoir. Mais depuis plus de 20 ans, toute une génération de filles avait pu avoir accès, au moins dans la capitale et dans les grandes villes, à un minimum d'éducation, à un travail dans la fonction publique ou même à la direction de sociétés privées. Ce temps est révolu. Et cette parenthèse d'espoir s'est brutalement refermée pour des millions de femmes afghanes qui n'ont plus d'autre choix que de se soumettre et dépérir. En dépit de promesses d'inclusivité qui n'ont engagé que ceux qui ont cru dans les milieux diplomatiques, l'éducation est devenue peu à peu inaccessible pour les jeunes filles, désormais exclues des écoles après l'enseignement primaire. Elles ont bien sûr été interdites d'inscription à l'université, ont été écartées de la vie politique et de la plupart des emplois de la fonction publique. De fait, ce sont toutes leurs libertés qui peu à peu se sont estompées, à mesure que leurs vêtements à nouveau imposés recouvraient leur corps et leur visage. À commencer par la liberté de manifester. Nombre de femmes qui ont contesté ce retour à un système ultra-patriarcal l'ont payé cher. Harcèlement, disparition, emprisonnement et torture se sont multipliés ces derniers mois pour étouffer toute velléité de protestation. Mais le plus flagrant est sans doute leur invisibilisation en dehors de la structure familiale. Interdite d'entrer dans les parcs publics, les femmes doivent être accompagnées par un tuteur masculin pour toute sortie hors du domicile. Les risques en matière de santé sont en outre grands pour les Afghanes, les femmes, seules à pouvoir les soigner, étant de moins en moins présentes dans le secteur médical et n'ayant plus accès aux études de médecine selon les ONG qui travaillent dans le pays. Beaucoup sont dès lors tentés de fuir le pays, mais pour aller où? Et surtout comment? Une fois la décision prise, commence en effet pour la candidate à l'exil un parcours de la combattante des plus éprouvants. Après s'être procuré un passeport et avoir trouvé un passeur capable de leur faire traverser la frontière, le plus simple pour elle est de rejoindre l'Iran ou le Pakistan. Et là arrive l'attente insupportable pour un sésame vers un pays tiers, avec les risques d'arrestation arbitraire et de harcèlement pour nombre d'entre elles, devenues irrégulières à l'expiration de leur visa ou parce qu'elles sont entrées illégalement dans le pays, avec le risque permanent d'être renvoyé en Afghanistan. Les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité. C'est par ces mots que le président Macron promettait, à l'été 21, que la France resterait aux côtés des Afghanes. Quelques semaines plus tard, le ministre des Affaires étrangères et européennes précisait même « Nous devons accompagner celles qui partent, celles qui ont trouvé refuge dans un pays voisin de l'Afghanistan, celles qui demandent l'asile, par exemple, en France ou en Europe ». Nous sommes conscients des efforts accomplis par la France pour évacuer plus de 6000 Afghans risquant des persécutions en 2 ans. Mais les critères et les modalités d'inscription sur ces personnes réfugiées demeurent peu transparents et ces aides ont baissé d'intensité. Surtout, aucune action concrète n'a été observée pour accorder plus rapidement l'asile aux femmes bloquées en Iran ou au Pakistan, ou de faciliter et d'accéder des procédures de réunification familiale pour les conjointes et les enfants d'Afghans exilés en France. Alors que l'action de la France, entre autres pays, a été déterminante dans l'accueil de réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre, en février 2022, nous ne pouvons que constater la différence entre les exilés afghans et d'autres nationalités traités avec une moindre considération, voire avec défiance. La guerre contre les femmes, menée par les talibans, mérite que l'on apporte tout notre soutien à ces femmes qui fuient l'obscurantisme. En décembre prochain, la France sera coordinatrice du Forum mondial sur les réfugiés. À ce titre, nous demandons aux autorités françaises de prendre des engagements clairs en faveur de l'accueil des femmes afghanes, notamment dans le cadre du programme de réinstallation des personnes particulièrement vulnérables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On va maintenant écouter une chanson de Pomme, enfin qu'interprète Pomme, Le tourbillon de la vie.
Séparés, alors tous deux on est partis dans le temps.
va revenir donc sur le naufrage dramatique qui a eu lieu le 14 juin 2023 au large des côtes de Pylos. En effet, ce naufrage fait l'objet de deux versions complètement contradictoires, la version des survivants et la version des autorités grecques. Avec Human Rights Watch, nous avons récolté des témoignages des survivants et des autorités locales. Leurs versions différentes pointent l'importance de mener de toute urgence une enquête efficace, indépendante et impartiale. Les membres de la délégation, donc d'Human Rights Watch et d'Amnesty International, se sont entretenus avec 19 personnes ayant survécu au naufrage, 4 proches de personnes disparues, des organisations non gouvernementales, des agences et organisations des Nations Unies et internationales et des représentants des gardes-côtes et de la police grecque. Les observations préliminaires des organisations confirment les inquiétudes présentées par plusieurs autres sources fiables quant aux circonstances ayant entouré le naufrage. Les personnes ayant survécu au naufrage, avec qui Amnesty International et Human Rights Watch se sont entretenues, ont toutes indiqué que l'équipage d'un navire des gardes-côtes grecs envoyé sur les lieux avait attaché une corde à l'Adriana et avait commencé à le remorquer, ce qui l'a fait tanguer et chavirer. Les autorités grecques ont fermement nié ces accusations. Les personnes survivantes ont également toutes déclaré que les personnes à bord du navire avaient demandé à être secourues et qu'ils avaient vu d'autres personnes sur le navire demander un sauvetage depuis des téléphones par satellite dans les heures ayant précédé le naufrage. Plusieurs personnes ayant survécu au naufrage ont déclaré que les autorités avaient confisqué leur téléphone après les faits et ne leur avaient donné aucun document attestant de cette saisie ni aucune information sur la manière de récupérer leurs biens. Nabil, un survivant d'origine syrienne, nous a dit « Ce sont non seulement les preuves du naufrage qui m'ont été prises, mais aussi les souvenirs des amis que j'ai perdus. C'est ma vie qui m'a été prise. » Lors d'un entretien avec Amnesty International et Human Rights Watch, de hauts responsables des gardes-côtes grecs ont déclaré que les personnes à bord du navire avaient limité leurs demandes d'aide à de la nourriture et de l'eau et avaient exprimé leur intention de poursuivre leur trajet vers l'Italie. Ils ont déclaré que l'équipage du navire des gardes-côtes s'était approché de l'Adriana et avait utilisé des cordes pour se rapprocher et déterminer si les passagers avaient besoin d'aide, mais qu'après des négociations, les passagers avaient renvoyé la corde et que le navire avait poursuivi son trajet. Amnesty International et Human Rights Watch continuent d'enquêter sur le naufrage de Pylos et de demander justice pour toutes les personnes touchées par celui-ci. Ce drame, qui aurait pu être évité, illustre la faillite des politiques migratoires européennes fondées sur l'exclusion raciale des personnes en situation de déplacement et la dissuasion meurtrière, a dit Esther Major, qui est conseillère recherche sur l'Europe à Amnesty International. Pour veiller à ce que ce naufrage soit le dernier drame à déplorer en Méditerranée, l'Union européenne doit réorienter ses politiques de contrôle des frontières vers les recherches en mer et la mise en place de voies sûres et légales pour les personnes demandeuses d'asile, réfugiés et migrantes. Compte tenu de la gravité de la portée internationale du drame de Pylos, les autorités grecques, avec le soutien et sous la surveillance de la communauté internationale, doivent veiller à ce qu'une enquête transparente soit menée afin d'apporter justice et réparation aux survivants et aux familles des victimes et d'amener les responsables à rendre des comptes. Les autorités grecques doivent demander à accueillir une aide et une coopération internationale ou européenne pour les enquêtes nationales afin de garantir leur indépendance, leur efficacité, leur transparence. Une enquête exhaustive et crédible sur le naufrage doit viser à déterminer toute responsabilité, tant pour le naufrage que pour les retards et manquements, ce qui concerne les efforts de sauvetage qui peuvent avoir contribué à cette hécatombe. L'enquête doit prévoir de recueillir les témoignages de toutes les personnes ayant survécu au naufrage dans des conditions assurant la confiance et la sécurité. Tous les éléments de preuve, comme les traces de communication, les vidéos et les photos, doivent être examinés et protégés afin d'assurer le processus d'obligation de rendre des comptes. Tous les biens, comme les téléphones portables qui ont été confisqués aux survivants aux fins de l'enquête, doivent être correctement consignés et restitués dans un délai raisonnable. Toutes les personnes impliquées dans les faits ou ayant connaissance, y compris les membres des gardes-côtes grecs et l'Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes, Frontex, les capitaines et équipages des deux navires marchands, ainsi que les autres personnes ayant pris part à l'opération de sauvetage après le naufrage, doivent être invités et convoqués afin de témoigner le cas échéant et doivent coopérer pleinement et rapidement dans le cadre des enquêtes. Voilà ce qu'on peut dire sur ce terrible drame qui a fait des centaines de morts. On va maintenant écouter à nouveau Pomme qui chante avec Pierre Lapointe « Tel un seul homme ».
Si je vous disais que même au milieu d'une foule, chacun par sa solitude a le cœur qui s'écroule, que même inondé par les regards de ceux qui nous aiment, on ne récolte pas toujours les rêves que l'on sème. Déjà, quand la vie vient pour habiter ces corps aussi petits qu'inanimés, elle est là, telle une déesse gardienne, attroupant les solitudes par centaines.
Cette mère Marie, mère chimère des patries, celle qui viendra nous arracher la vie, celle comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien d'âmes géants, tout petits nous sommes. La main de l'eau par mourir un jour ou l'autre. Et même amitié pour toujours trouver, et même après une ou plusieurs portées, elle est là qui accourt pour nous rappeler que si les hommes s'unissent, c'est pour mieux se séparer. Cette mère Marie, mère chimère de patrie, celle qui viendra nous arracher la vie, celle qui comme l'enfant nous tend la main pour mieux tordre le cou du destin. Et on pleure, oui, on pleure la destinée de l'homme, sachant combien même géants, tout petits nous sommes. Car tel un seul homme, nous avançons vers la même lumière, vers la même frontière. Toujours elle viendra nous arracher la vie, comme si chaque bonheur devait être puni.
Très belle chanson, chantée à deux. On va maintenant parler d'un pays qu'on n'entend pas trop parler, et pourtant il se passe des choses dramatiques depuis hélas très longtemps. C'est le Soudan. En effet, les civils au Soudan sont confrontés chaque jour à une horreur inimaginable. Alors qu'une lutte acharnée oppose les forces d'appui rapide, RSF, et les forces armées soudanaises, SAF, pour le contrôle du territoire depuis le 15 avril 2023, nous dénonçons les atteintes massives aux droits humains commises contre la population civile.
Les deux principales forces armées du pays qui s'opposent mènent des attaques aveugles et délibérées contre les civils. Elles n'hésitent pas à cibler des bâtiments publics, les hôpitaux, les églises, etc., des infrastructures humanitaires et se livrent à des pillages. Des gens sont tués chez eux ou alors qu'ils cherchent désespérément de la nourriture, de l'eau et des médicaments. Ils sont pris entre deux feux quand ils s'enfuient et abattus délibérément lors d'attaques ciblées. Des dizaines de femmes et de filles n'ayant parfois pas plus de 12 ans ont été violées et soumises à d'autres formes de violences sexuelles par les belligérants des deux camps. Il n'y a pas d'endroit sûr. Les deux groupes armés ainsi que d'autres groupes armés qui leur sont affiliés doivent cesser de cibler des civils et doivent garantir la sécurité de ceux qui partent pour échapper à la violence. Des mesures urgentes doivent en outre être prises pour garantir la justice et pour que les victimes obtiennent réparation. Donatella Rovera, qui est une de nos chercheuses spécialisées dans les situations de crise et de conflit, a dit « Presque 4 millions de Soudanais ont été forcés d'abandonner leur maison en l'espace de 3 mois. Cela risque de devenir l'une des pires crises de déplacement forcé dans le monde. » Compte tenu de l'ampleur des combats et de l'organisation des deux camps, il s'agit d'un conflit armé non international au regard des conventions de Genève. Dès lors, les affrontements entre les deux parties sont régis par le droit international humanitaire qui vise à protéger les civils et les autres non-combattants lors de conflits armés et par le droit international relatif aux droits humains qui continue de s'appliquer. Certaines graves violations de ces règles constituent des crimes de guerre pour lesquels les responsables, la responsabilité pénale individuelle de soldats et de commandants peuvent être engagées. Notre rapport, intitulé « La mort a frappé à notre porte », porte essentiellement sur des faits relevés à Khartoum et au Darfour occidental. Nous avons interrogé 181 personnes pour préparer ce rapport, essentiellement dans l'est du Tchad, en juin 2023, et à distance, en utilisant des moyens de communication sécurisés. Nous avons également examiné de nombreux documents audiovisuels montrant de possibles violations, ainsi que des images satellitaires pour corroborer d'autres faits. Cody Abbas est enseignant. À 55 ans, il vit dans le quartier de Kalakla, dans le sud de Khartoum. Il nous a dit « Ma femme et mes enfants se sont enfuis de chez nous en courant quand les affrontements ont débuté dans notre quartier. Mais mes deux fils, les plus jeunes, étaient petits et ne pouvaient pas courir assez vite. Je ne sais pas qui les a tués. C'est la guerre qui les a tués. » Fazi Al-Mardi, le père de Ala Fazi Al-Mardi, médecin de 26 ans, tué chez elle à Omdurman, dans le quartier de Aï al-Manara, le premier jour des affrontements. Il nous a dit « Ce matin-là, nous nous sommes réveillés en enfer. On entendait sans arrêt et partout les bruits des coups de feu et de bombardements. J'étais inquiet pour ma fille Ala, qui était allée travailler à l'hôpital. Quelques minutes après son retour à la maison, une balle a traversé la fenêtre de la salle de séjour et a touché ma femme au visage. La balle a traversé le côté droit de son visage et de son cou et a ensuite touché Ala en pleine poitrine, la tuant sur le cou. Cette balle, à elle seule, a détruit notre famille en l'espace de quelques secondes. Dès que notre fille est arrivée à la maison, où elle aurait dû être en sécurité, la mort s'est abattue sur nous. » Le droit international dit qu'il est interdit de prendre délibérément pour cible des civils et de mener des attaques sans opérer de distinction entre les civils et les combattants ou entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires. Le 13 mai à Khartoum, des membres des RSF se sont introduits dans l'enceinte de l'église copte Margigis, Saint-Georges, dans le quartier de Bari. Selon plusieurs témoins, ils ont abattu 5 membres du clergé et ont volé de l'argent et une croix en or. Le 14 mai à El Geneira, Adam Zakaria Ishaq, un médecin et défenseur des droits humains de 38 ans, a été tué en même temps que 13 patients dans le centre Marzak Inka Al-Tibi, un centre médical situé dans le quartier de Jamarik. Selon ses collègues, les 14 victimes ont été tuées par les membres des milices armées arabes. Nous dénonçons la montée des tensions au Darfour occidental. De nombreuses personnes appartenant à l'ethnie Massali se sont enfuies dans l'est du Tchad. Des personnes ayant fui El Geneira on dit à Amnesty International que la ville avait été attaquée par les milices armées arabes, lourdement armées et soutenues par les combattants du RSF. Le droit international humanitaire interdit de prendre délibérément pour cible les civils et de mener des attaques sans opérer de distinction entre les civils et les combattants. La spirale de la violence dans la région du Darfour, où les RSF et les milices qui s'y sont alliés sèment la mort et la destruction, ravit le spectre de la tactique de la terre brûlée, utilisée par le passé avec parfois des acteurs identiques, nous a dit Agnès Calamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty International. Il est scandaleux et déplorable que ce qui se passe au Soudan ne fasse pas l'objet de l'attention que cette crise mérite et que les pays européens ne soient pas prêts à accueillir au moins une partie des réfugiés soudanais. Seulement 24% des fonds requis ont été reçus. S'il y a de l'argent pour les guerres, il doit y avoir de l'argent pour les conséquences des guerres, dénonce notre chercheur Donatella Rovera. Face à ces violences terribles, la communauté internationale doit étendre immédiatement à l'ensemble du Soudan l'actuel embargo sur les armes qui s'applique actuellement au Darfour et veiller à ce qu'il soit appliqué. Quant aux pays qui disposent d'une influence importante sur les parties au conflit, ils doivent utiliser leur position pour les pousser à mettre fin aux atteintes aux droits humains. La communauté internationale doit considérablement accroître l'aide humanitaire pour le Soudan et les pays voisins doivent veiller à ce que leurs frontières soient ouvertes pour que les civils en quête de sécurité. Le Conseil des droits de l'homme doit tenir compte des appels lancés par l'autorité intergouvernementale pour le développement et mettre en place un mécanisme indépendant d'enquête et de reddition de comptes qui sera chargé de contrôler, réunir et conserver les preuves des violations des droits humains commises au Soudan. Alors on va écouter une chanson d'Alain Souchon qui parle justement du Soudan. Cette chanson a déjà 30 ans, ce qui nous montre que ce pays n'arrive pas à se sortir des drames que la population subit.
C'est bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y'a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette jet là-bas, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça, déjà ça, déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon Soudan, pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon Soudan. Suite la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue de Belleville, au milieu d'une foule. Et là le temps est morphine, cool. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oh, oh.
je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Voilà, donc on va terminer cette émission par les activités du groupe dinois d'Amnesty International. Alors si vous voulez participer à notre grand mouvement mondial de défense des droits humains pour un monde plus juste, vous pouvez nous rejoindre. Hein, n'hésitez pas à venir voir comment se passe une réunion. Donc la prochaine réunion aura lieu le mardi 26 septembre à 17h chez Madame Blanc, au 83 avenue de Verdun. Donc, c'est la villa qui est à côté de l'État des Trois-Vallées, derrière le grillage du parking. Voilà, nous sommes ouverts à tout le monde, hein, des jeunes et des moins jeunes, sans discrimination. Et donc, dans nos réunions, ben, nous parlons de nos actions urgentes, nous préparons des expositions, des ciné-débats, nous intervenons dans les lycées, nous participons à un concours d'écriture de nouvelles sur des thèmes de droits humains. On s'occupe aussi d'un dossier de prisonnier d'opinion. Il s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara. C'est un Cubain qui a été emprisonné parce qu'il luttait contre un décret de censure à Cuba qui indique que toute œuvre doit faire l'objet d'une autorisation avant d'être réalisée. Et pour ça, il était condamné à 5 ans de prison. Donc, le groupe dinois s'occupe plus particulièrement de lui et prépare une exposition d'œuvres réalisées par des artistes locaux en soutien à cet artiste cubain, Luis Manuel Otero Alcantara. Voilà. Le 13 et 14 octobre, notez bien ces dates, le vendredi et samedi, sera la foire aux livres d'Amnesty International, foire aux livres d'automne, hein, pour faire la provision de livres pour les longues soirées d'hiver. Voilà, n'hésitez pas à venir à cette foire. Il y a encore beaucoup de nouveautés. On nous a donné, ce sont que des dons, hein, on nous donne régulièrement des livres. Et on les vend au profit d'Amnesty International, puisque nous sommes une des rares associations qui ne demande aucune subvention, puisque justement on interpelle les États, donc on veut garder notre liberté d'interpeller tel ou tel État. Voilà, donc venez nombreux le 13 et 14 octobre à la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains pour notre foire aux livres. Le samedi 21 octobre, nous aurons une réunion régionale à Aix qui regroupe les membres d'Amnesty de la région Provence-Alpes. Voilà les prochaines manifestations. Donc, n'hésitez pas à venir assister à une de nos réunions si ça vous intéresse. Et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez m'appeler, hein, Régis Coulanges, au 06 81 34 18 83. 06 81 34 18 83. Voilà, on va terminer par une chanson d'Abdal Malik. Ça s'appelle « C'est du lourd » et ça remet en place ce qui est important dans la vie et ce qui est complètement négatif. Voilà. Merci.
Je me souviens, maman qui nous a élevés toute seule, nous réveillait pour l'école quand on était gamin. Elle écoutait la radio en beurrant notre pain. Et puis après, elle allait au travail dans le froid la nuit, ça c'est du lourd. Ou le père de Magide qui a travaillé toutes ces années de ses mains dehors, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il fasse soleil sans jamais se plaindre, ça c'est du lourd. Et puis, t'as tous ces gens qui sont venus en France parce qu'ils avaient un rêve. Et même si leur quotidien après, il a plus ressemblé à un cauchemar, ils ont toujours su rester dignes. Ils ont jamais basculé dans le ressentiment. Ça, c'est du lourd, c'est violent. Et puis, t'as tous les autres qui se lèvent comme ça tard dans la journée, qui se grattent les bourses, je parle des deux, hein. Celles qui font référence aux thunes du genre, la fin justifie les moyens, et celles qui font référence aux filles, celles avec lesquelles ils essaient de voir s'il y a moyen, ça, c'est pas du lourd.
Les mecs ils jouent les choses à main devant le bloc. Ils dealent un peu de coke, de temps en temps un peu de quecra. Et ils disent je connais la vie moi monsieur, alors qu'il connaît rien, gars, ça c'est pas du lourd. Moi je pense à celui qui se bat pour faire le bien, qui a mis sa meuf enceinte, qui lui dit je t'aime, je vais assumer, c'est rien, c'est bien. Qui va taffer des fois même pour un salaire de misère, mais le loyer qui va payer, la bouffe qui va ramener à la baraque, frère, ça sera avec de l'argent honnête, avec de l'argent propre, ça c'est du lourd. Je pense aussi à ces filles qu'on a regardées de travers parce qu'elles venaient de cité, qu'on montrait à coup de ténacité, de force, d'intelligence, d'indépendance, qu'elles pouvaient faire quelque chose de leur vie, qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient de leur vie, ça c'est du lourd. Mais t'as le bourgeois aussi, genre emprunté, mais attention, hein, je généralise pas. Je dis pas que tous les bourgeois ils sont condescendants, paternalistes ou totalement imbus de leur personne, non, parce que ça c'est pas du lourd. Je veux juste dire qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui croient qu'être français c'est une religion, une couleur de peau ou l'épaisseur d'un portefeuille en croco. Ça c'est bête, c'est pas du lourd, c'est... La France, elle est belle, tu le sais en vrai, la France, on l'aime. Y'a qu'à voir quand on retourne au bled. La France, elle est belle, regarde, tous ces beaux visages qui s'entremêlent, ça c'est du lourd. Et quand t'insultes ce pays, quand t'insultes ton pays, en fait, tu t'insultes toi-même. Faut qu'on se lève, faut qu'on se batte ensemble. Rien à faire, ces mecs qui disent vous jouez un rôle ou vous rêvez. C'est eux qui disent vous allez vous réveiller. Parce que si on y arrive, si on y arrive à faire front avec nos différences sous une seule bannière, comme un seul peuple, comme un seul homme, ils diront quoi tous, hein? Ben, c'est du lourd. Du lourd. Un truc de malade.